Stop, c'est parti.
Devant la télé.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes ne m'intéressent pas. You are
fake news. Il est 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans un nouvel Instant M.
Vous vous coupez ?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
Ils sont des millions dans le monde à se sentir simultanément orphelins, syndrome d'abandon, pire, deuil collectif. Mais des millions aussi à avoir signé une pétition et à exprimer toute leur colère sur les réseaux sociaux pour que les scénaristes réécrivent cette dernière saison. Ces millions-là cheminent avec Game of Thrones depuis maintenant 9 ans. Depuis hier, c'est bel et bien fini. Rupture émotionnelle avec des personnages qui petit à petit ont pris place dans leur vie. Pour les auteurs, l'enjeu s'avère édifiant. Comment terminer? Comment conjuguer les exigences propres à la structure d'un récit et les attentes du public? Poser la question de l'achèvement d'une série revient à interroger la spécificité de l'écriture sérielle. D'un point de vue littéraire, le défi narratif du 19e siècle, sur le plan audiovisuel, le Graal du 21e.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Vladimir Lifshutz.
Bonjour.
J'ai bien prononcé votre nom ?
C'est très bien.
Voilà, c'est un peu un chaussetra pour la radio.
C'est pas évident.
Vladimir Lifshutz, donc vous enseignez à Ciné Créatif à Lyon, à une école de cinéma. Donc vous êtes arrivé ce matin par le TGV, vous êtes chercheur. Ce travail dont on va parler ce matin fut à l'origine votre thèse de doctorat. Il est devenu un livre avec ce titre absolument magnifique, This is the End, hommage aux Doors, finir une série télé, et c'est paru aux presses universitaires François Rabelais. On en parle dans un instant, mais tous les mardi matin, il y a Xavier Delaporte qui nous accompagne. Bonjour Xavier.
Bonjour Sonia, bonjour.
Avec sa fenêtre numérique qui s'ouvre ce matin sur...
Vous pensiez peut-être qu'on avait touché le fond avec les fake news et les autres fausses informations.
Oui.
Et là, il se pourrait qu'elle ne soit qu'une étape de notre plongée dans l'ère de la post-vérité. Car voici que depuis quelques mois, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle les deep fakes.
Fake, deep, c'est pour, ça veut dire profond.
Voilà, alors ouais. Bon, fake, c'est pour faux trucage. Et deep, c'est pour deep learning, une des modalités d'intelligence artificielle. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? Grâce au progrès de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement de ce qu'on appelle les réseaux de neurones, des programmes sont aujourd'hui capables d'utiliser des images existantes pour générer d'autres images. Ouais. Ça signifie que vous pouvez animer un visage, lui donner des expressions, l'insérer dans une autre image. La pornographie s'en est vite saisie, comme toujours sur Internet, pour mettre le visage de star sur des corps d'actrices pornographiques. En version plus innocemment potache, ça donne, par exemple, le visage inquiétant d'Elon Musk, le patron de Tesla, sur un corps de bébé, c'est hyper flippant. Ou alors ça permet de faire jouer à Nicolas Cage des rôles qu'il n'a jamais tenus. Dans tous les cas, c'est assez saisissant. Mais il y a une dimension supplémentaire. D'autres logiciels permettent de trafiquer les voix. Par exemple, vous pouvez parler avec la voix de Barack Obama. C'est rigolo. Sauf que si vous combinez les deux techniques, que vous trafiquez à la fois le visage et la voix, ça devient plus problématique. Vous arrivez à produire une vidéo à peu près crédible dans laquelle, par exemple, Barack Obama tient des propos qu'il n'a jamais tenus. À partir du moment où les algorithmes ont à leur disposition suffisamment d'images et de discours existants, des logiciels de plus en plus faciles à manier et de plus en plus efficaces permettent de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est assez abyssal. Parce que jusqu'ici, la vidéo faisait malgré tout office de preuve. Avec des outils comme ceci, ça risque de ne plus être le cas. On risque de voir apparaître plein de fausses déclarations qui paraîtront très crédible. C'est un problème. Mais autre conséquence possible, quelqu'un qui aura par exemple été filmé en train de dire ou de faire quelque chose de répréhensible ou de gênant pourra toujours, en l'absence d'autres sources, crier au deepfake. Peut-être qu'on s'inquiète pour rien. Peut-être que les deepfakes resteront à jamais un gadget à usage plus ou moins de bon goût, sans grandes conséquences. C'est tout à fait possible, le monde des technologies nous a habitués à se tromper d'inquiétude. Mais si elles se développent et sont utilisées à grande échelle pour créer de fausses déclarations d'hommes politiques, par exemple, on entrerait dans ce qu'un expert a désigné comme un monde de la fake news sous stéroïdes. Parce que, au dire des chercheurs, il n'est pas facile de déterminer techniquement si une image a été fabriquée par ce type de programme. Il faut créer des logiciels qui puissent détecter des défauts dans les mouvements de cils, par exemple. Exemple, ce serait une guerre de programme informatique contre programme informatique, une sorte de fact-checking technique. Mais il pourrait y avoir une autre conséquence d'ordre quasi-philosophique. Toute image circulant dans les réseaux deviendrait alors, par essence, suspecte. L'image numérique basculerait dans le monde du faux. De la fabrication, on n'y croirait plus du tout. Elle tomberait dans un autre registre, celui de la fiction. On regarderait les images qui circulent sur Internet comme on regarde des films de fiction. Les deepfakes auraient tué l'idée même qu'il y ait une vérité dans l'image numérique. On y chercherait autre chose. Alors ce serait étrange, ça inaugurerait peut-être une nouvelle ère pour le journalisme notamment, mais pas sûr que ce soit pire qu'aujourd'hui.
C'est totalement vertigineux. Ça tuerait l'idée de vérité, mais ça tuerait aussi l'idée de fiction, du coup.
Du coup aussi.
Et ça nous rappelle qu'à la base d'une fake news, il y a toujours quelque chose de vrai, sauf qu'on en fait n'importe quoi.
C'est vrai.
Merci beaucoup, Xavier Delaporte. À réécouter en frissonnant sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Le poids sur le dos des scénaristes de série est un poids nouveau dans l'histoire de l'humanité.
Le poids qui pèse sur les épaules des scénaristes de séries est-il si nouveau dans l'histoire de l'humanité? On entendait éclater de rire l'écrivain Paco Tielman dans le documentaire d'Olivier Joyard, Fin de série. On a accompagné ça de quelques madeleines qui sont finies et bien finies. Donc oui, ce sont des madeleines. Friends, Les Sopranos, Game of Thrones, le S est de l'autre côté, et Breaking Bad. Mon invité s'appelle Vladimir Lifshutz. Il en a fait une thèse de doctorat, figurez-vous, 750 pages, et c'est devenu un livre qui s'appelle This is the end. Poids nouveau dans l'histoire de l'humanité? Non, pas dans l'histoire de la création, en tout cas, Vladimir Lifshutz.
Non, pas dans l'histoire de la création, mais par contre, ce que dit Paco est vrai, c'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, grâce à l'accessibilité aussi aux fictions, il y a des millions et des millions de téléspectateurs qui ont accès, par exemple, à une série, là où, quand on revient en arrière, au roman feuilleton, même au serial, au cinéma, on n'a jamais eu autant, probablement, de spectateurs devant une fiction. Et du coup, le poids nouveau, c'est peut-être proportionnel au nombre, justement, de personnes qui peuvent regarder ces contenus de fiction.
C'est ça.
Et là, le poids est très lourd. Oui.
Alors, plus une série dure, plus le lien qui se tisse avec le public est puissant, bien entendu, plus l'investissement émotionnel est profond. Toujours dans ce documentaire d'Olivier Joyard, on a retrouvé quelque chose d'assez savouré. Écoutez un critique du New Yorker aux États-Unis.
Avec certaines séries, nous entretenons des relations qui dépassent en durée nos relations dans la vraie vie, sauf peut-être avec nos parents ou nos enfants. Et encore, c'est incroyable. Je connais mieux la biographie des personnages de Mad Men que celle de la plupart des membres de ma famille. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé précisément et tout ce qui a été important dans les 10 dernières années de la vie de mon père, mais avec Don Draper, je peux.
Voilà, et Mad Men qui s'est achevé en 2015.
Absolument.
Vladimir Lifshutz. Oui, ça devient des personnages de la famille.
Oui, ça devient des personnages de la famille. Et je crois que, alors j'ai oublié le nom du chercheur qui en parlait, mais qui a expliqué que d'un point de vue des sciences cognitives, en fait, on ne différencie pas un personnage réel d'un personnage de fiction. Donc en fait, on s'investit émotionnellement autant pour quelqu'un qui existe bel et bien dans la vraie vie que pour un personnage de fiction. Même si, évidemment, d'un point de vue de la raison, on sait très bien qu'il n'existe pas, les émotions, elles sont sincères. Et donc ce que dit le
journaliste du New Yorker,
c'est ça. C'est complètement cohérent parce qu'en fait, l'émotion aussi qu'on y place, elle nous pousse à connaître ces personnages, à faire des recherches dessus, à essayer de les comprendre davantage. Donc, même si ça paraît complètement extrême, c'est pas du tout.
Est-ce que les nouvelles manières de consommer la série, ce qu'on appelle le binge-watching, c'est-à-dire la mise à disposition de l'intégrale de la série dès le premier soir de la diffusion, c'est venu avec les plateformes, avec Netflix et Amazon, mais du coup, les chaînes de télé s'alignent et font la même chose sur leur site. Est-ce que ça a profondément changé le rapport à ces personnages, puisque nous n'avons plus ce cheminement personnel ou collectif qui se faisait de semaine en semaine en attendant la suite.
Il a évolué, alors il y a encore quand même une mise à disposition des saisons année après année, donc il faut bien attendre un an pour voir la suite.
Suivante.
Voilà, sauf si bien sûr on regarde l'intégrale d'une série qui a déjà été diffusée. Mais ce qu'on voit avec par exemple Game of Thrones, c'est que c'est un peu le modèle ancien, un épisode par semaine, et ce que les gens adorent, c'est en discuter. Là je regardais un article qui expliquait qu'une partie des gens aux États-Unis ont posé leur RTT lundi matin, pour ne pas aller bosser parce qu'ils ont passé la nuit à discuter de la série. Ça montre bien qu'il y a un investissement très très fort
et que tout le para-récit, tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux ou à la machine à café,
est aussi presque important que le contenu en soi. C'est l'expérience collective qui est vécue en fait, qui plaît énormément, je pense, aux téléspectateurs.
Libération titrait dernier orgasme collectif.
Mais
c'est-à-dire
c'est
ce
ça.
Modèle-là a changé. Qu'est-ce que ça change à la construction des personnages et à l'attente de la fin? Puisque vous avez travaillé travailler sur comment finir entre binge-watcher, c'est-à-dire regarder tout d'un seul coup et attendre semaine à semaine, le processus n'est pas le même. Le processus de réception n'est pas le même.
Non, notamment parce que quand on regarde une série par exemple sur 10 ans, comme Game of Thrones à peu près, on est sur l'idée aussi qu'on vieillit en même temps que la série se diffuse, et donc on a peut-être commencé à la regarder quand on avait 20 ans, 30 ans, 40 ans, enfin voilà, il y a quand même 10 ans de notre vie qui s'est écoulé, et donc l'expérience qui est à mon sens différente, c'est qu'on n'a plus du tout le même investissement temporel. Il reste une attache très forte dans les séries qu'on binge-watch, mais à mon sens, elle est moins forte parce que justement, elle n'est pas rattachée à autant de souvenirs et d'expériences souvent collectives, puisqu'une série se regarde souvent à plusieurs, pas tout le temps, mais quand même, il y a beaucoup d'expériences de cela. Donc je pense que c'est beaucoup lié aussi à comment on a regardé une série et en combien de temps on l'a regardée.
Combien de types de fins, combien de façons de fins avez-vous listé, Vladimir Lifshutz?
Alors il y en a un grand nombre, il y a les fins ouvertes, les fins extrêmement tranchées, les fins qui s'arrêtent sur un écran noir.
Les fins ouvertes que, en fait, vous dites, qui peuvent être en fait beaucoup plus clivantes que des fins tranchées.
Bien
on pensait que non, ça pouvait rassembler tout le monde et mettre tout le monde d'accord. Non, ça met les gens très en colère, comme à la fin des Sopranos.
Totalement, parce que la fin des Sopranos, sans évidemment dire comment ça se termine, mais à la fin des Sopranos, il y a l'idée qu'il y a quelque chose de fondamental qu'on ne sait pas sur finalement le personnage principal. Et du coup, une partie des téléspectateurs était trahie pour eux parce qu'ils voulaient savoir. Et une autre partie était plutôt content puisqu'ils avaient envie de garder le mystère. Toujours l'équilibre en fait entre le savoir et le mystère qui est au cœur des processus d'écriture des séries télévisées.
C'est ça. Donc fin ouverte, on a dit fin tranchée. Les fins tranchées, c'est quoi? C'est la mort d'un personnage, c'est le retour d'un personnage.
C'est ça. À mon sens, c'est des fins qui concluent très clairement sur le destin d'un protagoniste.
Oui.
Breaking Bad, à mon sens, c'est plus dans cette direction-là, même si on peut nuancer. Donc on a voilà ce deux types de fins, mais globalement, moi, une constante que j'ai remarquée, en tout cas dans mes recherches, c'est que toutes les fins cherchent, dans les derniers instants, à provoquer quelque chose de très, très, de l'ordre du purement émotionnel chez le téléspectateur. Ils ont des manières différentes d'y arriver, mais ils vont aller chercher à convoquer les souvenirs, ils vont essayer de nous rappeler tout ce qu'on a vu, tout ce que ça renvoie aussi comme expérience vécue. Pour qu'à la fin, justement, les gens soient bouleversés émotionnellement parlant. On parle vraiment de catharsis, là, au niveau de la fin.
De catharsis émotionnelle.
Exactement.
Qu'est-ce que vous appelez la déformulation? C'est-à-dire le basculement, de ce que j'ai compris, d'un récit dans un autre registre, dans un traitement beaucoup moins réaliste.
C'est pour moi la différence entre ce qu'on appelle l'immanence et l'imminence.
C'est-à-dire
que quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer. Mais on n'a pas conscience à quel moment on bascule vraiment dans cette fin-là. Et dans l'écriture des séries télévisées, dans leur mise en scène, il y a un passage, souvent, dans beaucoup de séries que j'ai étudier en tout cas, où clairement on passe de savoir que la fin va se produire à je le ressens, elle se produit. Et c'est souvent dans les derniers instants
d'une
série.
Entre le moment où je le sais et le moment où je le vis.
Exactement. Entre voilà, le savoir et l'expérience. Et on l'expérimente vraiment souvent dans le tout dernier épisode. Alors après, ça dépend des séries. Mais il y a ce moment où soudainement, la série fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Elle prend un rythme qu'elle n'a jamais pris. Elle joue avec le téléspectateur d'une nouvelle manière. Et ça, généralement, moi je l'ai appelé déformulation. C'est-à-dire l'inverse de formuler quelque chose, ben on le déformule.
Ouais, Six Feet Under, magnifique souvenir.
Exactement.
Étant le dieu tout-puissant de cette émission, j'ai décidé que nous ne raconterons aucune fin de série, même si elles sont très anciennes. Six Feet Under s'est achevé en 2005. Pour ma part, j'ai pas vu énormément de séries, mais je vis encore avec. Voilà une fin de série que les téléspectateurs, c'était encore de la télé, ont profondément et tous aimé.
Absolument. Parce que c'est intéressant de voir que Six Feet Under, c'est une série qui parle de la mort.
Oui.
Et toute la fin de la série est sur cette question-là.
C'est l'histoire d'une famille de croque-morts.
Exactement. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série sur la fin, en fait, la fin de la vie. Chaque épisode en parle d'une manière ou d'une autre. Et chaque membre de cette fameuse famille qui travaille, donc les Fisher, dans les pompes funèbres, doit à un moment expérimenter ce que signifie aussi le mot fin dans leur vie. Et la fin de la série est vraiment sur cette thématique-là. Et je pense que du coup, elle est extrêmement cohérente avec tout ce que raconte la série. Mais que pareil, c'est une fin qui est très, très différente du reste de la série. Il se passe plus de choses dans les 6 dernières minutes de Six Feet Under que dans les 5 saisons. Et ça, on le vit, on le ressent intensément, et comme vous le dites, ça nous accompagne après, parce que ça nous fait réfléchir, je pense, aussi sur notre propre rapport à la fin.
Alors, il est des fins qui ont rendu le public absolument furieux. En fait, on n'a pas attendu Lost, on n'a pas attendu Game of Thrones pour râler. On râlait déjà le 1er février 1968, dernier épisode du Prisonnier en noir et blanc.
En Angleterre, les haters étaient nombreux. À la diffusion du dernier épisode, il y a eu une quasi-émeute. J'allais me faire lyncher. J'ai dû me réfugier dans les montagnes pendant 2 semaines. jusqu'au retour du calme.
Il y avait de la colère ?
Oui, sortir dans la rue était devenu dangereux pour moi. Les gens ont eu le sentiment d'être trompés.
Voilà, témoignage. Témoignage de l'auteur du prisonnier. Je dis Lost aussi, hein, Damon Lindelof menaçait tous azimuts en 2010. Et on sent bien hein, que quand on reparle de Lost aujourd'hui, 8 ans après, 9 ans après, ça provoque encore de la colère.
Absolument. Et c'est intéressant puisque du coup, pour le prisonnier, je pense que les gens à l'époque, si je me souviens bien, avaient râlé par lettre. Mm-hmm. Avec Damon Lindelof, c'était Twitter, où il a été le plus insulté. Mm-hmm. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui revenait qui était « vous m'avez trahi ». Donc, il y avait comme si un contrat de confiance avait été passé avec l'œuvre. D'accord, j'accorde 10 ans de ma vie à cette œuvre, mais attention, ne me trahissez pas. Et c'est intéressant de voir l'investissement qui est donné du coup par les spectateurs pour en arriver à dire quelque chose de pareil. Ça paraît complètement fou.
Xavier Delaporte, ça vous a rappelé Sherlock Holmes.
Oui,
vous n'étiez pas né, mais c'est une vieille histoire.
Bah oui, parce que dans le feuilleton déjà, le feuilleton écrit, c'était passé la même chose puisque Conan Doyle avait tué Sherlock Holmes à la fin d'un livre et il y avait eu tellement de réclamations de la part de ses lecteurs qu'il avait été obligé de le faire revivre dans un livre suivant.
Ouais. Absolument. Et rien ne dit que Lost n'aura pas, alors peut-être pas de suite, mais un remake, ça c'est probable avec probablement une autre fin.
Ouais.
Donc aussi, les fins de séries ne sont jamais vraiment les fins. C'est ce que je trouve intéressant, en tout cas ces dernières années, c'est qu'on voit
comment ça
que beaucoup de séries ont d'autres suites après 10, 15, 20, 25 ans. Et en fait, il est très difficile aujourd'hui de dire c'est fini Game of Thrones, alors que peut-être que dans 10 ans, je dirais l'inverse, parce qu'il y aura une suite.
Alors,
on ne sait pas.
Vince Gilligan, qui est le créateur de Breaking Bad, s'est beaucoup exprimé sur ce qu'il appelle une écriture organique, c'est-à-dire disons qu'il n'y a pas de fin prévue dès le départ, que les arches narratives se construisent au fur et à mesure de l'évolution des personnages.
Ouais.
Que le créateur est porté par ses créatures d'une certaine manière.
Totalement, il y a presque un côté Frankenstein dans l'écriture.
Oui, oui.
Mais c'est surtout aux États-Unis qu'ils ont cette conception-là très organique.
Alors,
justement de l'écriture. C'est probablement un rapport aussi avec le storytelling à l'américaine, c'est-à-dire leur école de formation, la manière dont ils pensent l'écriture, la place du scénariste aussi dans ce dispositif qui est un peu le personnage le plus important de la pyramide de production. Et du coup, ce rapport-là à l'écriture aussi, cette idée de l'organicité dont on parle, elle engage peut-être aussi un rapport très proche des émotions aussi, parce qu'elle est très proche de quelque chose de viscéral. Et donc l'écriture, à mon sens, de ce Vince Gilligan, par exemple, est typiquement dans cette direction-là, me semble-t-il.
Voilà. C'est important, la fin d'une série.
C'est très important, je
Vous
pense
savez qu'on
aussi,
est assez nombreux à parfois ne jamais se souvenir de la fin d'un film ou de ne jamais se souvenir.
C'est vrai.
Vous avez une explication à ça, d'ordre cognitif ou...
Alors cognitif, non. Après, je pense que ça vient de l'investissement qu'on y place, encore une fois, et du temps qu'on a donné. C'est-à-dire qu'on l'attend tellement qu'à un moment donné, cet élément-là, on va s'en rappeler en bien, en mal, mais on va s'en rappeler. Et du coup, à mon avis, c'est pour ça aussi que ça imprime quelque chose dans nos esprits, parce qu'elle est rattachée, encore une fois, à une période de nos vies.
Ouais.
Et du coup, cette fin-là, elle va nous rappeler des choses. Quand on entendait tout à l'heure les musiques, par exemple, des séries, tout de suite, c'est un peu comme une Madeleine de Proust. Enfin, ça nous renvoie à quelque chose presque de l'ordre du passé. Mmh. Et c'est la force aussi de ces productions, c'est de s'inscrire dans un temps qui crée aussi de l'émotion.
Alors, c'est important, la fin. Est-ce que c'est la fin qui donne le là ? Est-ce que c'est la fin qui fait l'identité d'une série ?
Je crois qu'il y a beaucoup de séries oubliées aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas de fin. Justement.
C'est vrai ?
Ouais.
Notamment
dans les années 80, 90, ou des fins précipitées. Moi, je me rappelle une très grande série qui s'appelle Code Quantum, dans les années 90, qui s'est clôturée par trois panneaux-titres qui expliquaient la fin, qui n'ont pas eu le temps de tourner la fin. Et du coup, c'est une série qui aujourd'hui n'est plus redécouverte.
Ouais.
Je le vois quand j'en parle. Donc, c'est des séries avec lesquelles on a grandi, mais qui disparaissent un petit peu. Alors que les séries qui ont une fin dont on parle, pas forcément... unanimement reconnues comme réussies, mais dont on parle, c'est des fins qui peuvent survivre parce qu'elles engagent les prochaines générations à les redécouvrir. Moi aussi, j'ai envie de regarder, par exemple, Game of Thrones parce que je veux savoir si je suis plutôt de ceux qui ont aimé la fin ou ceux qui l'ont détestée.
Et en une seconde, vous comprenez pourquoi elle clive autant, cette fin de Game of Thrones, puisqu'il y a des gens qui sont dans un état de colère absolument déchaîné et incompréhensible pour ceux qui n'ont pas vu Game of Thrones. Vous comprenez la
Je comprends notamment parce que, justement, ils se sont énormément investis dedans. Ils en ont attendu quelque chose d'assez énorme.
Mais dans le choix qui a été fait par les scénaristes, il y a quelque chose de si clivant que ça.
Je pense, oui.
Oui,
oui, oui, bien sûr.
Très bien.
Ah oui, bien sûr, sur ça aussi.
Sur ça aussi. Allez, This is the End, finir une série télé est un petit livre formidable paru aux presses universitaires François Rabelais.